Donc, vous étiez humain autrefois, puis vous êtes décédé et vous êtes plongé en enfer. Depuis, cet abominable et continu état d'agonie, de souffrance qui vous affecte autant mentalement que physiquement, vous ont totalement balayé tout souvenir de cette vie passée. Par pure logique, vous vous doutez que vous étiez sans doute des sales types, ou que vous avez ce qu'on appelle une vision personnelle et particulière du bien et du mal. Mais cette souffrance abominable que vous ressentez depuis que vous êtes en enfer vous a même fait oublier l'enfer lui-même, à un sens. Les seules choses dont vous vous souvenez, c'est Gérard et Françoise. Deux démons géants qui étaient chargés de martyriser votre fosse à damnés. Et passé les mois, les années ou les siècles, parce que vous n'avez aucune idée réelle du temps qui passe en enfer, ils ont remarqué que vous avez un petit potentiel de malveillance en vous. Dans votre manière de taper votre voisin quand vous avez vraiment trop mal, de passer une demi-seconde en plus avant de vous mettre à hurler, ou de faire remarquer que le type à gauche, il a eu 20 coups de fouet en moins sur ses parties génitales, ils ont senti réellement qu'il y avait une sorte de possibilité en vous, de potentiel. Ils ont appelé des potes, ils ont fait passer le message à des potes supérieurs, qui sont venus vous recruter, entre guillemets, selon vos affinités, selon vos talents, selon vos dons. Et on vous a dit, si vous êtes prêt à obéir, vous pourriez quitter l'enfer. Alors, on n'est pas dans Toulouse, j'ai pas passé 10 minutes là-dessus, mais il est important que vous compreniez que vos personnages, l'enfer, c'est juste la chose la plus abominable qui soit. L'idée d'y retourner, ça peut décontracter instinctivement les muscles de vos sphincters. Réellement, vous êtes prêt à tout faire pour ne pas y aller. C'est juste l'endroit le pire qui existe dans toute la création, donc quand cette chance, cette occasion est venue à votre esprit, à vos mains, à vos griffes, vous avez sauté dessus. On vous a fait bien sûr un petit débrief de base sur les lois et manières et méthodes de base des démons. Par exemple, on vous a appris que vous avez désormais la possibilité de lire, d'écouter et de parler un langage démoniaque que seuls les démons comprennent. Vous pouvez aussi afficher ce qu'on appelle une aura démoniaque. Une aura démoniaque, c'est une sorte de petit halo rouge, soufre, un rouge pourpre bien sanglant. On s'en sert pour faire des petits appels de phare, ça affiche votre identité de démon. Les anges l'ont aussi. On vous déconseille de la laisser allumer, hein. C'est comme se trimballer avec une pancarte avec une cible dessus. Mais c'est une preuve, une sorte de papier d'identité tacite et naturelle que vous êtes un démon. Donc j'ai dit, on s'en sort pour prendre une sorte de petit appel de phare pour la montrer. On vous a aussi appris, c'est un détail qui a son importance, qu'il vaut mieux éviter de rentrer dans les églises désormais, depuis votre nature démoniaque. Poser un simple petit bout d'orteil sur la première marche d'entrée dans le lieu de culte catho, c'est comme lancer la grande alarme rouge. Parce que l'église va mettre à sonner ses cloches de manière compulsive et folle. Les statues vont se mettre à pleurer du sang et les décors vont tomber. L'église va tout faire pour prévenir les anges dans un rayon le plus grand possible que vous êtes là. Ça, c'est les choses usuelles. Ensuite, on vous a appris les règles de base que vous allez devoir respecter si vous ne voulez pas retourner en enfer. La première, elle est logique. C'est obéir à Satan.
Gloire à Satan.
Et donc par logique à tous ses supérieurs entre lui et vous. Les princes démons, mais aussi des démons plus gradés que vous. Quels que soient les ordres, vous devez les exécuter. Satan, il ne peut pas se tromper. Il ne sait pas qu'il détient la vérité, c'est qu'il est la vérité. Le deuxième principe, c'est un principe assez important, c'est le principe de discrétion, que même les anges respectent, ils n'ont pas le choix. Pas de pouvoir démoniaque devant les témoins. Pour être puissant, le mal doit rester caché. Vous n'avez pas le droit de laisser une vingtaine de cadavres humains, plus ou moins déchiquetés ci et là. Quand vous laissez un cadavre, il faut laisser des preuves qui laissent à penser que c'est un humain qui est coupable. En gros, on vous a fait indirectement comprendre que la Terre, c'est un petit peu le grand plateau de jeu, le joli plateau de jeu de Satan et du diable, de Dieu. Le bousiller, c'est être certain de retourner en enfer. De la même façon, le meurtre d'innocents, inutile et déconseillé. Bon, vous êtes des démons, vous pouvez déconner, vous amuser, mais il faut que ça reste réduit et mesuré. Que ça ne gâche pas le principe de discrétion. La troisième loi bien importante, c'est que si jamais vous rencontrez des anges, vous n'avez pas le droit de les laisser passer. De manière générale, face aux emplumés, le concept même de pitié, vous l'enlevez, vous l'enfermez dans une cave et vous lui déstructurez l'intégrité physique, mentale et rectale. Chaque emplumé que vous croisez doit finir à la broche, avant de passer à la mission suivante. La quatrième loi, la plus nuancée et la plus joyeuse probablement, c'est être un démon, c'est plus qu'un métier, c'est une façon de vivre. Vous êtes sur Terre pour servir Satan, mais autant le faire avec plaisir. Si vous pouvez conduire une Porsche plutôt qu'une de CV, de chevaux, si vous pouvez dîner au champagne plutôt qu'à la Croix ou à la Valstar, faites-vous plaisir. Du moment que vous respectez les lois précédentes, putain, vous êtes un démon sur Terre. Profitez. Ce sont les grands credos des démons. Vous n'avez vraiment, vraiment, vraiment pas envie de retourner en enfer. Vous savez que c'est un lieu où il y aura sans arrêt, de manière continuelle, une agonie horrible. Donc même l'idée avec toutes ces lois d'entrer sur Terre, vous avez un grand sourire. Et c'est ce qui va se passer. On vous l'a indiqué, une fois votre choix de prince démon, on va vous rebalancer sur Terre. Et ce, à travers... dans un cadavre, qui vient juste de mourir, et vous allez l'habiter. Et vous commencez donc à vous éveiller sur Terre. Je vais vous demander à tous de me jeter un D666, s'il vous plaît. Et vous allez me dire en ordre décroissant vos résultats, en fait. Du plus haut au plus bas. Donnez-moi juste votre nom.
Alors, le plus haut ou le plus bas? Le plus haut, c'est moi, c'est Randall Flagg.
Non, Randall Flagg.
Fernand Corbeil.
Ah oui. Ah oui, c'est important.
Et oui, Fernand Corbeil.
Tu as repris en conscience au moment où tu crachais et même vomissais un bout de croissant rassis qui apparemment avait provoqué l'asphyxie de ton personnage. Tu avais remarqué qu'apparemment, de par les papiers et ce qui se trouvait dans ta demeure, un assez luxueux appartement au cœur de Paris, que tu étais un présentateur TV au chômage, d'une émission occulte et assez célèbre qui avait eu une véritable popularité chez les enfants, mais qui est désormais annulée. Tu as vu à côté de toi, c'est une des premières choses que tu as vues, hein, sur la table à côté de toi, une masse, une pléthore indénombrable de lettres d'enfants, de photos joyeuses, d'admiration, de... En tant que démon, ça t'a provoqué une sorte de diabète mental de voir toute cette innocence, toute cette joyeuseté, toute cette naïveté magnifique.
C'est dégueulasse.
Voilà. Depuis, les enfants, tu... Ça t'inquiète, ça a trop d'innocence, trop de potentiel. C'est quand tu vois un enfant, la deuxième chose que tu penses, c'est lance-flamme. Tu as remarqué que de par ton affiliation avec le prince démon Chronos, tu étais capable donc... Est-ce que c'est utile de faire tout le déballage de tes pouvoirs? C'est des choses que tu as remarquées au fur et à mesure, les jours après les autres. Les uns après les autres. Donc tu es capable de... Tu as ce gros pouvoir gros build qui te permet de balancer ton un ennemi en dehors des lois du temps et de l'espace et donc probablement de ne plus jamais le revoir. Tu as le pouvoir de te déplacer une seconde en avant ou en arrière. Tu peux, voilà, connaître l'heure exacte à chaque instant et tu peux utiliser des attaques télékinésiques. Assembler un amas d'objets petits ou moyens et les balancer à la gueule de ton ennemi. Ensuite, c'est à qui ?
Je crois que c'est Dick...
C'est... Oui, monsieur Dick Benz, tu t'es relevé le visage couvert de farine. Tu as vu que tu étais un chanteur de variété sur le retour. Une vedette un peu dépassée, mais encore un petit peu de potentiel. En tant que démon, serviteur d'André Alphus, prince démon du sexe, tu peux naturellement sentir les frustés autour de toi, dans un rayon de 20 mètres. Tu peux provoquer des orgasmes douloureux, changer de forme, et faire apparaître de longues griffes effilées à tes doigts. En revanche, ce monde tellement moderne, hein, les années 97, t'ont provoqué une angoisse, voire un début de phobie de tout ce qui est technologie récente. Les Minitel, pour toi, c'est une horreur, c'est une abomination. Tout ce qui est électronique, tu n'as pas confiance.
On est d'accord.
Ensuite ?
Ensuite, c'est à Gisèle Mollard.
Donc oui, toi, tu t'étais réveillé la tête dans une tasse de café que tu avais fracassée en t'évanouissant. Tu avais à la gorge ce goût caractéristique... d'amande douce amère qui a le cyanure. Et ça, les différents papiers qu'il y avait chez toi, ta mode vestimentaire et aussi un petit peu ton visage et cette attention anonyme qu'on a déversée dans ton café t'ont fait remarquer que oui, apparemment tu es une inspectrice du fisc à la retraite. Première chose qui t'est apparue à l'esprit après avoir commencé à nettoyer ta table de tout ce café, c'est une bûche littéralement qui a sauté délicatement sur la table et a roulé jusqu'à toi. Tu sais, la tranche d'une bûche, quand on regarde, quand on coupe un arbre, on peut voir les différents cercles de croissance de l'arbre. Tu as remarqué que sur cette tranche, différents pigments de bois, tout lentement, tout doucement, semblaient s'agglomérer, se déplacer, de sorte à former une sorte de smiley.
Oui, tout à fait.
Qui affichait deux yeux et une bouche droite, d'un neutre et d'un cynisme et d'un taciturne particulièrement bien développé et alourdi. Il a provoqué un grand soupir de... Tu sais, les gens qui ont savent qu'ils ont quelque chose à dire, mais... Salut. Chef. Moi, c'est Estelle.
Estelle.
Tu as un sentiment de familiarité avec elle. Tu sais pas si ça vient de ta vie humaine basique et passée que tu as oublié. Ça se trouve, peut-être, c'est un démon que tu as connu en tant qu'humain autrefois. Mais tu as comme un sentiment de familiarité envers elle.
Effectivement, je suis assez proche d'Estelle.
Tu le sens, c'est viscéral.
J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à la lâcher. Hein,
Ah, elle s'en est rendue compte, avec d'autres soupirs. tu as remarqué que tu pouvais absorber la volonté de personnes proches, t'en servir pour régénérer tes capacités magiques et utiliser tes autres pouvoirs qui sont par exemple des malédictions de Leader, le pouvoir de rendre fou pendant plusieurs minutes quelqu'un. La malédiction, tu as senti, lorsque tu avais croisé quelqu'un que tu n'aimais pas du tout, tu as senti instinctivement cette possibilité en toi. Il y avait les mots qui restaient bloqués dans ta gorge, qui n'attendaient que ta volonté pour être déversés et le maudire. Tu as compris que c'est un sortilège qui s'applique en voyant la personne, et détail important, en la prononçant de voix haute et claire. Tu peux pas souffler en passant le chuchoter à l'oreille de ta victime. Il faut que tu la regardes et lui craches à la gueule de manière qu'elle le comprenne.
Quand tu dis voix haute, c'est...
Oui, j'ai l'orthographe. C'est une voix haute du ciel.
Tu peux aussi connaître l'état mental des gens que tu observes. Et tu as une caractéristique, tu as un goût personnel et particulier pour tout ce qui est vestimentaire.
Ah oui, alors oui. Moi, les petits costumes, les petits tailleurs bien coupés, bien nets, hein, en tissu synthétique qui donne un petit peu les cheveux électriques, j'adore.
Le tergal et le jacquard sont pour toi des synonymes de confort.
Absolument.
Et Edouard Balladur est à tes yeux une gravure de mode.
Ah mais complètement, complètement. Ce petit menton qui lui occupe toute cette partie inférieure.
Bien serré sous sa cravate.
J'adore, j'adore. Vraiment.
Ça va, c'est à qui ensuite ?
C'est à François-Frédéric Fournet.
Monsieur Fournet, tu t'es réveillé derrière un comptoir avec un grand couteau dans le bide. Alors qu'apparemment, une petite frappe à côté de toi est en train de dévaliser la caisse. Ça t'a fait réaliser très vite, instinctivement, que tu avais le pouvoir de transformer ta langue en un long fouet extrêmement barbelé. Tu lui as refait la gueule, le torse, les bras, les jambes, la plupart du corps, et tu as nettoyé tout ça. Tu as compris que tu étais un barman. Tu ne possèdes pas le bar, mais tu es le barman principal des soirées. Tu as compris que tu pouvais toi aussi maudire. Il me semble que c'est une malédiction de folie.
De folie.
C'est ça, tu peux... Les malédictions, c'est de manière définitive. Pour l'enlever, ils devront faire appel à la magie. Donc c'est réellement une malédiction, c'est costaud. Tu as compris que tu pouvais provoquer des cauchemars chez quelqu'un que tu avais vu et qui devait se trouver dans un rayon d'à peu près 500 mètres. Tu es capable de te liquéfier. Un soir où tu avais trop bu, tu te dis « Ah bah tiens, moi aussi, je suis de l'alcool. » Que tu peux choisir la couleur de ce liquide. Et la première fois que tu t'étais liquéfié, lorsque tu t'étais reconstitué, tu avais oublié une petite boute dans un coin. Et depuis, tu as remarqué que tu as un petit bout d'orteil en moins. Ça t'a laissé une légère ambiance tacite te faisant comprendre que si tu te liquéfies, que t'es pas entière au moment où tu te reconstitues, bah, soit tu seras pas trop vivant, soit en boue. Tu as aussi saisi que tu as que quelqu'un a un portable et que tu as besoin de courant pour les jeunes. Pour toi, c'est un besoin, tu as besoin de corrompre la jeunesse, de la tenter, de réussir à la tenter de faire des choses mauvaises, pas de la forcer, sinon ça ne fonctionne pas, mais réellement aller pourrir de leur propre volonté.
C'est important de corrompre la jeunesse, très très important.
La 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 la.
Il me semble qu'il reste plus que.
Il ne reste plus que Christian Godin.
Christian Godin.
Allô, Garage Godin, j'écoute.
Monsieur Godin, tu avais repris conscience dans un corps bien abîmé et bien massif, vers les 3h du matin, au volant d'un véhicule, et alors que tu embrassais un platane qui avait traversé trop vite et sans regarder, tu avais compris à ton haleine que apparemment le précédent habitant de ce corps avait un problème avec l'alcool. Tu t'es retrouvé dans un petit bois à la périphérie de Paris, sans personne aux alentours. Encasté littéralement dans la bagnole avec le pare-brise à travers la gueule, mais littéralement à travers la gueule, ce qui fait que tu es désormais défiguré. Si tu vois croise des anciens vétérans de la Première Guerre mondiale avec des gueules cassées, ils peuvent te prendre pour un collègue.
Aïe.
Réellement. Aïe. Et par contre, en essayant de te désincarcérer parce que tu n'y arrivais pas de tes propres bras, tu as compris que tu pouvais faire apparaître des dents, une mâchoire particulièrement importante, qui est une des preuves et une des faveurs d'Aganti, ton prince démon. Je sais pas si tu vois comment sont constituées les mâchoires des grands requins blancs. Ces trois rangées de dents courtes mais particulièrement épaisses qui se renouvellent naturellement avec le temps.
C'est quand même pratique.
Tu as ça. Tu as pas la taille d'une mâchoire de grand requin blanc, mais tu as ce même système de dents. Tu es du genre à avoir une boulimie et une avidité de consommation gastronomique particulièrement importante. Qui fait que tu as dû déjà probablement provoquer plusieurs suicides de plombiers qui sont dû passer dans les lieux d'aisance que tu as fréquentés. Je vais pas insister sur ce point, mais oui, tu as un LTP en puissance. Tu as aussi remarqué que tu es capable d'avaler la plupart des aliments grâce à ces dents, que tu es capable d'invoquer un lourd et vieux manteau de cuir, Je sais pas si tu vois ces imperméables britanniques à l'époque victorienne, du genre Jack l'Éventreur, avec un carré de tissu en plus au niveau des épaules.
Ouais, j'aime beaucoup.
C'est ça. Ils semblent être constitués d'un, basiquement, d'un cuir que tu n'arrives pas à identifier. C'est pas de la vache, hein. Il est tellement ancien qu'il a une odeur de mort qui lui colle, qui colle à ses tissus, et plusieurs de ses extrémités sont presque en franges de par son âge et son usure. Et il y a plusieurs endroits qui ont été recousus, mais avec du cuir qui a des trous semblables à des narines, à des yeux ou des bouches. Et lorsqu'on est très proche, et toi, lorsque tu le portes, tu l'entends précisément, il y a comme une sorte de courant d'air vif, mais proche de, de ce manteau. Et quand on l'écoute avec précision, on se rend compte qu'en fait, ce sont comme un concert de gémissements très fins, très légers. Tu te demandes si en fait, ce ne sont pas des âmes qui sont emprisonnées là-dedans et qui prennent les coups à ta place.
J'aime bien le principe.
Tu peux percevoir tout ce qui est consommable dans un rayon de 20 mètres. Et tu es capable, malgré ta masse importante, d'une agilité foudroyante. Comme par exemple, de faire des bonds de 5 mètres autant en hauteur qu'en longueur. Vous avez été réincarné dans ces corps il y a environ 2 semaines. On vous a laissé reprendre conscience, connaissance avec le mode humain, à l'habiter, à l'infiltrer. Vous savez qu'un jour ou l'autre, vous allez avoir des ordres. Et c'est ce qui va arriver. Vous allez tous recevoir un courrier qui est rédigé entièrement en langue démoniaque. Ce courrier va vous faire un petit rappel historique d'une époque où un petit Allemand nerveux à moustache avait pas mal troublé la politique internationale.
Ah.
Et du rapport qu'il y avait entre certaines idéologies nazies et, les idées catholiques intégristes. Vous rappelons que même si de nombreux croyants et prêtres et autres apôtres du divin avaient s'étaient conduits de manière héroïque durant la Seconde Guerre mondiale, il y en avait aussi plusieurs pas mal qui avaient du mal à dissimuler leur démangeaison dans le bras droit. Tous ces idéaux nazis d'une race pure avec les femmes qui ferment leur gueule à la maison et tout ce qui n'est pas blanc et hétéro au cimetière, ça leur convenait parfaitement. C'était leur idée de Dieu, de la bonté. Et c'est sans doute une effroyable coïncidence, mais lorsque les nazis ont été vaincus, il y a beaucoup de Français d'aussi bons collabos que croyants qui ont été dissimulés, protégés, cachés et aidés par l'Église, par la branche dure de l'Église. Ce document finit en vous faisant réaliser ce magnifique point Godwin, pour vous les démons face au camp d'en face. Et se termine ensuite par d'autres éléments, tel qu'un rendez-vous à ne pas manquer, vous comprenez que c'est du genre je le manque, je retourne en enfer direct, à 3h33 du matin, dans une station de métro totalement paumée derrière Ruelle Malmaison. On vous a averti que vous y retrouverez 4 de vos petits camarades que vous allez devoir apprendre à bosser ensemble. C'est ainsi que commence le scénario, je suppose que vous y allez, ou alors on arrête de jouer maintenant, comme vous voulez.
Qu'est-ce que j'ai pu pécho sur cette minute ?
Oh, l'horrible bonne femme.
Les belles histoires de Kevin.
Mais c'est quoi ces jets de dés ?
Bientôt, dans Quid Novi.